Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, également candidat à la présidence de son parti. Vos questions dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Bonjour Christian Jacob.
Bonjour.
On va parler dans un instant et longuement de la droite, des Républicains, de vos propositions pour le parti, mais d'abord deux sujets d'actualité. Le premier, et c'est une journée spéciale sur France Inter. Le gouvernement organise un Grenelle sur les violences faites aux femmes et il promet, le gouvernement, plus de moyens, une prise en charge plus rapide des victimes. Est-ce que vous soutenez tout simplement cette initiative de l'exécutif ?
Écoutez, nous y avons d'abord travaillé depuis plusieurs mois et nous en avons fait une priorité pour la rentrée parlementaire parce que vous savez que en tant que groupe d'opposition, nous avons droit cet automne à une journée d'initiative parlementaire. Et dans cette journée, ça n'est pas d'aujourd'hui que nous l'avons prévu, nous avons prévu ça au mois de juin, nous allons présenter un texte pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce texte va être porté par Aurélien Pradier, un de nos jeunes parlementaires qui s'est beaucoup investi sur ce sujet avec des propositions très concrètes et j'espère qu'on sera effectivement capable de se rassembler que sur les propositions qui pourront être retenues, que les collègues de la majorité En Marche nous soutiendront.
Il propose notamment de réduire à 6 jours le moment entre la saisine de la justice par une victime et la mise en place de l'ordonnance d'éloignement, de l'ordonnance de protection. Ça vous semble un délai raccourci?
Oui, c'est une proposition effectivement d'Aurélien Pradier parce que le constat qu'il a fait en travaillant beaucoup avec les associations, on est souvent dans des délais supérieurs à un mois. Et plus d'un mois entre le moment du dépôt d'une plainte et l'ordonnance de protection, ça n'est pas supportable. Il faut l'encadrer strictement par la loi et l'obliger à le réduire. Mmh. Mais il y a aussi d'autres propositions sur la généralisation du bracelet électronique d'éloignement. Ça, c'est aussi une mesure très concrète.
Que Nicole Belloubet veut aussi mettre en œuvre. Elle va accélérer, encourager l'utilisation de ces bracelets-là.
Et ça fait partie du travail et des propositions qui ont été faites, que l'on va proposer de mettre dans la loi dès le mois d'octobre.
Mais l'idée de faire ce Grenelle avec tous les ministres engagés, toutes les associations, vous pensez que ça va dans le bon sens? Vous soutenez cette idée-là?
Oui, à condition qu'on débouche sur des mesures concrètes, bien évidemment. Simplement, est-ce qu'il y a besoin de reprendre ce délai? Parce que je crois que du coup, on en sera sur des propositions en début d'année. Pour moi, il y a peut-être des décisions d'urgence que l'on peut prendre très très rapidement. C'est pour ça que j'invite tous les collègues parlementaires, quelle que soit leur sensibilité politique. On n'est pas, quand on est sur ce sujet des violences faites aux femmes, il n'y a pas une politique de droite, politique de gauche, politique du centre. Il y a des mesures concrètes qu'on est capable de mettre en application. Mmh. On va les proposer et j'espère que tous les groupes parlementaires sont capables de nous rejoindre sur ces propositions.
Autre sujet d'actualité, Christian Jacob, les annonces d'Agnès Buzyn sur les urgences, admission directe des personnes âgées des EHPAD dans les services des hôpitaux sans passage par les urgences si on peut l'éviter, transporter par le SAMU des malades vers les cabinets médicaux, là encore si on peut éviter les urgences, des points de suture, des prescriptions de radio faits par les infirmiers des urgences, ils n'ont pas ce droit-là aujourd'hui. Est-ce que ces mesures sont tout simplement à même de calmer un mouvement social qui dure et qui ne cesse de prendre de l'ampleur?
J'ai envie de dire oui et non, parce que oui, dans le sens où un certain nombre de mesures vont dans le bon sens, encore faut-il avoir la capacité de les mettre en application. Vous voyez, l'entrée directe dans les EHPAD, le sujet, c'est souvent d'avoir une place dans l'EHPAD.
C'est
dans les hôpitaux.
C'est vers les hôpitaux, des EHPAD vers les hôpitaux.
Oui, mais simplement, encore faut-il qu'on ait alors effectivement cette capacité. Dans l'autre sens, on sait aussi qu'on peut alléger les mesures d'urgence, le passage dans les urgences lorsqu'on a une médecine de ville qui est capable d'y répondre. Et donc là, il y a un autre sujet qui se pose, c'est celui des déserts médicaux. Donc là aussi, nous, c'est un travail que nous avons fait depuis quelques mois, déjà l'année dernière, avec avec des propositions très concrètes qui permettent, par exemple, à des jeunes médecins de terminer leurs dernières années d'internat en médecine de ville, dans des zones rurales, et d'ouvrir des cabinets avec un tuteur. Il faut à tout prix répondre à cette situation des déserts médicaux aujourd'hui, parce que sinon, effectivement, on engorge les urgences.
Alors, venons-en maintenant à cette...
Et puis l'autonomie, davantage d'autonomie dans les établissements aussi. Moi, j'ai présidé pendant des années mon hôpital à Provins. On voit bien que l'autonomie des établissements s'est réduite de plus en plus, et donc on a de moins en moins de capacités financières et d'intervention pour répondre à des situations locales précises.
Alors, venons-en donc maintenant, Christian Jacob, à cette rentrée difficile, cruciale pour vous. Le Parti des Républicains est entré en crise profonde après les européennes, et il faut tout refaire du sol au plafond. Vous vous êtes dévoué pour la cause, Christian Jacob, sauver le parti, en prendre peut-être la présidence, et on a tout simplement envie de vous demander comment ça va depuis cette décision. Est-ce que vous vous sentez comme un moine soldat ou juste comme un moine seul dans votre cellule, dans un colloque singulier avec, je sais pas, Dieu ou l'esprit du général de Gaulle? Où vous en êtes?
Écoutez, j'en suis un engagement avec beaucoup de détermination. Effectivement, bon, je vais pas vous dire que j'en avais rêvé toute ma vie. Simplement, il y a un moment, on prend ses...
Mais oui, avant les vacances, vous avez posé la question juste avant les vacances.
Je sais, c'est pour ça que je dis, parce que je me doutais que vous alliez revenir.
Et vous nous avez regardé droit dans les yeux en disant absolument pas, non. Je ne serai absolument pas candidat, ça m'intéresse absolument pas.
Je n'étais pas dans cet état d'esprit. Simplement, à un moment, il faut aussi avoir le sens des responsabilités. La décision de Laurent Wauquiez nous oblige à avoir effectivement cette élection. Moi, je veux d'abord rendre hommage à l'action qui était celle de Laurent Wauquiez, parce que c'est facile de lui taper dessus. Il a pris une décision qui n'est pas facile pour un responsable politique. Il l'a pris avec beaucoup de hauteur, beaucoup de dignité, au moment où d'autres se seraient peut-être bunkérisés. Donc, reconnaissons cela. Aujourd'hui, il faut effectivement rassembler, réconcilier, reconstruire. C'est cela aujourd'hui.
Ouais. Pardon d'être un peu dur, mais on entend ces phrases-là depuis des années, à droite. Il faut reconstruire. Il y a quand même beaucoup de crises fratricides.
Tout ne vient pas des européennes. Ça a été un élément déclencheur. Ouais, c'est plus profond. La réalité, c'est que depuis 7 ans, effectivement, on perd 2 présidentielles. On n'est pas présent pour la première fois de notre histoire au deuxième tour d'une présidentielle. On perd 2 législatives. On a un échec violent aux élections européennes. En revanche, dans cette même période, on gagne toutes les territoriales, on gagne les municipales, on gagne les départementales, on gagne les régionales. Et pourquoi on gagne ces élections sur les territoires? Parce que sur les territoires, on est rassemblés, parce qu'on est capable de faire le PAC. Et c'est ça qui nous permet de gagner sur les territoires. Et donc, moi, l'enjeu qui est le mien, avec l'expérience qui est la mienne d'avoir été maire à 3 reprises dans ma ville de Provins, présidé une intercommunalité, le groupe parlementaire, mon passé de ministre, etc., c'est que je sais que c'est ensemble qu'on gagne. Et ce que je veux faire, c'est m'inspirer de ce qui nous permet de gagner sur les territoires, et puis gommer effectivement ces divisions qui nous ont conduits aux échecs.
Alors, ensemble, vous ne l'êtes pas tellement, si j'ose dire, en cette rentrée politique.
À ce stade,
la rentrée politique de LR se fait en ordre plus que dispersé, je dirais même vaporisé. Gérard Larcher, Guillaume Larrivé et vous à La Baule, Valérie Pécresse à Brive, Christian Estrosi à Nice, Christophe Béchu, maire d'Angers à Angers, Bruno Retailleau chez lui, Hervé Morin, François Baroin, Dominique Bussereau à la fête de la pomme dans l'Eure, Laurent Wauquiez au Mont-Mézenc, et j'oublie le Touquet, ça ressemble au Tour de France, mais sans maillot jaune. Blague à part, est-ce que vous n'êtes pas plus nombreux, est-ce que vous n'êtes pas déjà de moins en moins nombreux et de plus en plus désunis?
Il y a 2 manières de voir les choses. Il y a la première, vous venez de la présenter, elle est réelle. De toute façon, si on était en bonne santé, on n'aurait pas fait ce résultat aux européennes. Et objectivement, je ne serais pas candidat aujourd'hui, on n'aurait pas ces élections internes. On peut aussi le voir différemment. C'est que, même si nous sommes effectivement dispersés, ramenons les choses à ce qu'elles sont. D'abord, la Baule, c'était pas la rentrée politique des LR. C'était une organisation menée par la Fédération de Loire-Atlantique, problématique avec les départements voisins, comme ça se fait dans beaucoup de départements ou de régions. Ceci étant, c'est aussi la démonstration qu'il y a un peuple de droite, et un peuple de droite qui aspire à l'alternance après ce gouvernement macroniste.
Vous êtes sûr qu'il aspire à autre chose? Vous êtes sûr qu'il aspire à l'alternance? Ah oui. Parce que quand on regarde les résultats des européennes, où quasiment 30% des électeurs de François Fillon ont voté pour Emmanuel Macron, on peut se demander si le peuple de droite, il n'a pas été happé par Emmanuel Macron.
Vous savez, quand vous faites le tour de ces différentes rentrées des uns et des autres, vous y allez, vous voyez bien qu'à la fois il y a du monde, il y a une mobilisation, il ne faut pas confondre non plus les scrutins entre les municipales et les européennes. Moi je crois que cette aspiration, elle existe, mais on n'a pas su l'incarner justement par nos divisions. Mmh. Et quand j'appelle à mettre fin à toutes ces petites chapelles qui, au-delà de c'est légitime aussi de satisfaire les égos de ceux qui les créent. Qu'est-ce qu'elles apportent aujourd'hui?
Mais
moi, je dis à tout le monde de venir travailler dans la grande maison. Et j'avais parlé de bâtir une cathédrale parce que c'est cela qui va nous permettre d'incarner le moment venu l'alternance.
Spécifiquement à Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, vous leur demandez de rentrer à la maison?
Pas qu'à eux, mais à tous ceux qui aujourd'hui se sont éparpillés. Alors bien souvent, on nous dit, mais regardez, on fait ça parce que ça permet de porter des idées. J'ai pas vu beaucoup d'idées émerger de ces petites chapelles, la réalité. Encore une fois, ils satisfont les égos des uns et des autres, très bien. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on se batte pour un vrai projet d'alternance. Aujourd'hui, notre rôle, ça n'est pas d'apparaître comme les meilleurs opposants à M. Macron, mais c'est d'apparaître aux yeux des Français comme une force crédible d'alternance.
Mais
et en étant divisé, on n'y arrivera pas.
Quel espace politique vous reste-t-il, Christian Jacob, depuis l'élection d'Emmanuel Macron? J'aimerais citer Emmanuelle Mignon, l'ancienne collaboratrice de Nicolas Sarkozy, qui disait la chose suivante, il faut dire les choses comme elles sont, Emmanuel Macron est le meilleur président de droite qu'on ait eu depuis un certain temps. Fin de citation. Est-ce qu'il n'a pas tout simplement annexé votre territoire idéologique et politique?
D'abord, c'est un avis que je ne partage pas.
Mais celui d'Emmanuel Mignon.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français et de droite qui ne partagent pas cet avis. Non, et il ne l'a pas incarné pour une raison.
Annexé.
Pour une bonne et simple raison, c'est que les réformes qu'attendent les gens de droite ne sont pas faites aujourd'hui. Lorsque Emmanuel Macron s'engageait sur la baisse des dépenses publiques, la réalité c'est qu'il augmente les dépenses publiques beaucoup plus vite que ne le faisait François Hollande. Lorsqu'il appelait au désendettement de la France avec une croissance qui repart, la réalité c'est que par rapport à François Hollande, il a augmenté la dette. Lorsqu'il parle de la compétitivité des entreprises et qu'on compare nos entreprises françaises aux entreprises voisines, on a une balance commerciale qui est beaucoup plus déficitaire. 45 milliards de déficit sous François Hollande dans notre balance commerciale, 60 milliards avec Emmanuel Macron, 15 milliards de plus en 2 ans. Donc la compétitivité des entreprises n'est pas là. La réforme, il ne l'a pas. Il a pu à certains moments l'incarner, donner l'image de l'affaire. Mais la réalité des chiffres que je viens de citer, c'est que les réformes n'ont pas eu lieu. Et c'est pour ça qu'il ne répond pas à ses attentes.
On va pas refaire le... L'ISF, la loi travail, l'assurance chômage.
Mais quand
SNCF,
les choses vont dans le bon sens, nous les votons.
Oui. La réforme des retraites. Emmanuel Macron a déclaré que la notion d'âge pivot pourrait être abandonnée au profit d'un allongement de la durée de cotisation. Le président a-t-il eu raison d'entendre les critiques et d'en tenir compte?
Écoutez, moi j'attends de voir la copie, parce que vous avez noté comme moi que c'était très évolutif les positions du président de la République sur ce sujet. Alors, qu'il entende les partenaires sociaux, c'est bien, mais bon, il y a 2 ans qu'il les entend, puisque j'avais cru comprendre que c'était le job de Monsieur Delevoye. Donc, force est de constater que ça n'a peut-être pas marché. Donc, attendons de voir la copie, nous, sur les retraites. On a un positionnement qui est très clair, c'est de dire d'abord nous devons aller vers l'harmonisation du public et du privé, en prenant en compte, notamment dans le public, l'ensemble du régime indemnitaire qui n'est pas pris en compte aujourd'hui pour calculer les retraites des agents du service public. Ensuite, la deuxième chose, il faut sortir des régimes spéciaux, mais le faire avec un calendrier, on sait qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et troisième élément, il faut effectivement allonger la durée de cotisation. nous avons été les seuls à droite à porter une réforme comme celle-là et qui a permis de garantir jusqu'à aujourd'hui notre système de retraite. C'est Nicolas Sarkozy qui a passé l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans. Donc on reste sur cette ligne-là.
Et une consultation nationale sur le modèle du grand débat national, est-ce que ça vous semble une bonne idée, Christian Jacob, celle d'associer largement les citoyens français à une réforme qui va tous les concerner à un moment ou à un autre?
Oui, je crains fort que ça permette en fait de gagner du temps et dire que la réforme ce sera pour après.
Vous craignez qu'elle soit pas faite, cette réforme?
Écoutez, j'ai le sentiment qu'on cherche beaucoup à gagner du temps. Alors, moi, j'attends de voir. Pourquoi? On va voir effectivement si un jour on a un texte sur la table avec des propositions très très précises. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'on se creuse la tête aujourd'hui à l'Élysée, à Matignon, pour savoir comment on gagne du temps. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le ministre du budget.
L'exécutif ralentit le rythme des réformes.
Écoutez, moi, j'écoute les ministres. J'écoute Monsieur Darmanin qui a dit qu'il fallait au moins un an. Un an pour travailler, consulter. Il n'a pas dit un an pour faire voter la réforme, pour travailler, consulter. Donc dans un an...
Oui, mais quand l'exécutif était vertical, toutes les oppositions le lui reprochaient. Quand il est horizontal, on trouve qu'il est plus vertical. Quand ils vont trop vite, on dit que c'est trop rapide. Quand ils ralentissent, on dit qu'ils ne font plus rien. C'est quand même des injonctions contradictoires à chaque fois, non?
Quand on est au gouvernement, c'est pour gouverner. Cette réforme, en tout cas pas sur les réformes. La réforme des retraites, c'est pas moi qui ai pris l'engagement, c'est le président de la République qui l'a pris il y a 2 ans. Il a dit qu'il ouvrait une période de consultation, il a nommé un haut commissaire, qui est monsieur Delevoye, pour faire ce travail, qui rend sa copie, à partir de là on présente un texte. Et maintenant on nous dit oui, le texte nous est présenté, mais finalement on va se refaire encore une petite année de consultation, puis pourquoi pas une deuxième.
En fait, vous accusez Emmanuel Macron d'immobilisme, vous lui reprochez au fond de faire du chiracisme, ça devrait vous plaire. Non,
Jacques Chirac a fait, vous savez, un certain nombre de réformes et de réformes qui ont compté, que ce soit dans la politique familiale, que ce soit en direction des entreprises, et ce soit aussi sur la politique internationale. Je pense que M. Macron serait bien inspiré de s'inspirer de Jacques Chirac.
Allez, beaucoup de questions au standard. On en a beaucoup d'autres également avec Léa. Bonjour Marina.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Marseille, vous avez la parole.
Voilà, bonjour à vous, bonjour à M. Jacob. Je voudrais d'abord le remercier pour le travail que je comprends difficile au sein de l'Assemblée nationale pour se faire entendre. Je le remercie pour ça. Voilà, moi je suis militante LR, je suis sarkozyste jusqu'au bout des ongles. J'ai une seule question à vous poser. Quid de la primaire ouverte pour la désignation du prochain candidat au présidentiel? Parce que c'est vraiment un sujet qui, je pense, concerne tous les militants. Et à tort ou à raison, c'est peut-être le sujet qui risque de déterminer beaucoup de votes. Donc je voudrais savoir, il y a un des candidats qui s'est déterminé pour quelque chose qui est mi-chèvre, mi-chou. Je voudrais savoir, vous, votre position, primaire ouverte, oui ou non, pas de primaire du tout, voilà.
Merci Marina.
C'est important pour nous.
Merci Marina. Christian Jacob vous répond.
Je ne suis pas favorable à la primaire. On a vu dans quel échec ça nous a conduit. Ceci étant, je pense qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui. C'est d'abord être capable d'incarner un vrai projet alternatif et qui apparaisse aux yeux des Français. Mais viendra le moment de désigner notre président, celui qui portera nos couleurs. Et en tout cas, ça ne sera pas, de mon point de vue, par une primaire ouverte, parce que
sera sans vous. De toute façon.
Oui. Non, mais ça. Non, mais cette primaire ouverte.
Président du parti, peut-être que vous voudrez un jour être président de la République.
A permis, on l'a bien vu, à des gens qui n'étaient pas de nos sensibilités politiques de venir se mêler du scrutin pour désigner le candidat. Donc il faut sortir de ce jeu-là. Mais la priorité aujourd'hui, c'est le travail de fond, c'est de bâtir ce projet d'alternance.
Une question d'André sur l'application France Inter. Vous êtes agriculteur et un des anciens porte-parole du syndicat des agriculteurs, ça remonte aux années 90. Que dites-vous au maire de Langouette qui souhaite tout faire pour préserver les habitants des pesticides? Soutenez-vous le préfet qui a interdit son arrêté municipal?
Non, parce que la loi Et la loi aujourd'hui, bien évidemment qu'il faut protéger les habitants des pesticides, mais prenons pas dans chaque commune des arrêtés dans tous les sens. Il y a des produits. Aujourd'hui, le monde agricole...
Il faut changer la loi.
Non. Je veux dire deux choses. Tout d'abord, le monde agricole est sans doute celui qui a fait le plus en matière d'environnement de baisse d'utilisation des pesticides et baisse des engrais. Il suffit de regarder aujourd'hui les chiffres. Il y a des efforts énormes. Donc, continuons dans ce sens-là, mais n'interdisons pas tout dans tous les sens du jour au lendemain. Il y a des produits qui sont dangereux, qui sont interdits. Et ce que je dis d'ailleurs, c'est que quand des produits sont interdits en France, ils doivent être sur l'ensemble de l'Union européenne. Vous savez, on peut prendre quelques exemples. Par exemple, juste un mot sur les cerisiers il y a quelques années. Il y a un produit qui s'appelle le diméthoate, qui est un insecticide, qu'on a interdit d'utilisation en France en disant qu'il y avait des risques cancérigènes. Très bien. Sauf qu'il est autorisé en Hongrie, autorisé en Bulgarie. Et donc les consommateurs ont mangé des cerises qui étaient traitées au diméthoate. Donc le sujet, c'est celui-là. C'est pas que chacun dans son pré carré prenne telle ou telle interdiction. Donc faisons-le avec sérieux, avec sens des responsabilités, en fonction des produits qui sont dangereux aujourd'hui, qui doivent être interdits et ceux qui peuvent être utilisés. Sinon, demain, il n'y aura plus d'agriculture. Le problème sera résolu aussi d'une autre manière.
Christian Jacob, les municipales approchent. Quel est votre objectif pour les municipales? Garder combien de villes?
De garder nos territoires. Nous sommes majoritaires sur les territoires. Nous devons rester majoritaires sur les territoires.
Ça veut dire concrètement combien? En dessous de combien vous serez déçus?
Mais on sera déçus si on n'est plus majoritaire sur les territoires. Voilà.
Qu'est-ce que vous dites aux élus LR qui ont des velléités de rejoindre La République En Marche? Est-ce qu'ils seront sanctionnés s'ils franchissent le pas? C'est quoi la règle?
La règle, c'est qu'on ne peut pas passer d'accord avec En Marche, pas plus d'ailleurs qu'avec le Rassemblement National ou d'autres. On passe des accords avec nos partenaires traditionnels que sont les centristes. Pas d'accord En Marche, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous composez une liste avec un accord politique, avec une autre formation politique, lorsque vous allez avoir les sénatoriales, ben, les grands électeurs vont se rapprocher de leur formation politique. Et donc, si on va dans ce sens-là, ça veut dire qu'on perdra la majorité au Sénat, au départemental et au régional.
Question concrète.
En revanche, j'ai été maire. Je sais ce que... Et en tant que maire, ça n'est jamais une formation politique. Et la mienne, celle du RPR, de l'UMP et des LR aujourd'hui, qui m'a expliqué comment je composais ma liste. Donc un maire la compose avec intelligence, en fonction des personnalités qui répondent aux attentes
de sa
population.
Alors justement, vous répondez quoi à Christian Estrosi qui dit « Je veux simplement m'entourer des meilleurs pour servir les Niçois sur ma liste. S'il mettait sur sa liste des personnalités de La République En Marche, il est sanctionné ou pas ?»
Je ne veux pas d'accord politique. Je l'ai dit. Donc on aura l'occasion en commission d'investiture d'auditionner Christian Estrosi et tous ceux qui sont candidats aux élections municipales et qui nous présenteront leur projet municipal. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'accord parce que l'accord, c'est un marché de dupes. Et puis, allons au-delà de cela. Quelle est la volonté d'En Marche aujourd'hui? C'est de nous voir disparaître. On ne va pas s'associer avec des gens dont le but premier est de nous voir disparaître.
Un peu de bon sens.
Mais je ne suis pas dans les sanctions. Je dis simplement qu'il y a une règle. Et la règle pour l'investiture, c'est qu'il n'y a pas d'accord politique.
Dernière question, est-ce que Rachida Dati est votre candidate à Paris?
On va, là aussi, on l'évoquera en commission d'investiture le moment venu. Moi, j'ai toujours considéré, j'en ai jamais fait mystère, que Rachida Dati avait toutes les qualités pour porter nos couleurs. Mais c'est pas une décision que je prends seul, c'est une décision qui doit être débattue au sein de la commission d'investiture.
Quand?
D'ici cet automne, voilà. Non, mais là, on est dans les élections internes. Je suis pas président du parti, donc les commissions d'investiture continuent, vont avancer jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, une décision sera prise le moment venu.
Merci Christian Jacob d'avoir été au micro de France Inter et bonne campagne donc pour votre élection possible à la tête du parti Les
Républicains.
Merci
de ce soutien, de cet engagement.
Oui, non, enfin, j'ai juste fait un geste. Il n'y voyait pas. C'était pas un vote à main levée, hein.
Enfin, y a pas un immense suspense dans votre cas, hein.
Il n'y a pas de suspense.
Écoutez, une élection, c'est une élection et on la prend toujours avec humilité et responsabilité.
Voilà, cette déclaration étant faite, je vous redis merci. Il est 8h45.